En ce 21 février, à Rencontre spirituelle, c'est la fête de Saint-Pierre d'Amiens. Saint-Pierre d'Amiens, un réformateur qui aurait pu être un réformateur protestant s'il était né peut-être quelques siècles plus tard. Il a vécu au 11e siècle. Il était animé d'un esprit de réforme extrêmement puissant. Il était né dans une famille très pauvre, c'est un enfant non désiré, sa mère ne l'a même pas allaité. Et pourtant, il est devenu évêque, cardinal, docteur de l'Église. Et il est mort en 1072, Saint-Pierre d'Amiens, qui était né à Ravenne, en 1007. Ravenne, n'est-ce pas? C'est dans le nord de l'Italie. Me donne sur l'Adriatique. C'est une très belle ville, je vous l'ai déjà signalé, une ville de caractère byzantin, c'est-à-dire que des monuments, nombreux des basiliques, des églises, remplies de mosaïques de type byzantin, sont là, dans cette ville presque abandonnée. C'est magnifique, c'est très très beau à visiter. Et André Frossard a publié, il y a peut-être une dizaine d'années, un ouvrage absolument fantastique sur Ravenne, c'est à lire, à parcourir et surtout à regarder. Des photos magnifiques. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je suis content de vous parler de Saint-Pierre d'Amiens en ce mercredi des cendres. Aussi pour chacun de nous un temps de réforme, un temps de changement. C'est un temps où les jours de pénitence devraient être un peu restitués, à mon avis. On manque de prise de conscience. Aujourd'hui, on ne sait même pas, pour la plupart d'entre nous, que le mercredi des cendres, comme le vendredi saint, ce sont deux jours de jeûne et d'abstinence. On ne sait même plus ce que c'est. Le jeûne, c'est s'abstenir de manger quoi que ce soit entre les repas. C'est de plus diminuer la quantité de nourriture que l'on prend, que l'on a le goût de prendre. Se retenir, s'abstenir. Et l'abstinence, c'est s'abstenir de viande. Oh, on peut bien manger des langoustines, machin, machin, ce serait pas très, très honorable. Je crois qu'il faut manger un poisson simple, des pâtes, des choses simples. Pourquoi faire ça? On vient de voir, ça s'est terminé avant-hier, le ramadan. Bon, j'ai un ami musulman qui est venu me voir hier, qui était tout fier d'avoir fait son ramadan. Il ne pratique pas, mais il fait le ramadan. Ils sont heureux, ça les fait adhérer, on dirait, à leur religion, de vivre ainsi. Je voyais à la télévision il y a quelques jours une toute jeune Québécoise, devenue musulmane, qui a peut-être quoi, 18-20 ans, qui est étudiante à l'Université de Toronto et qui disait en français à la télévision de Radio-Canada combien elle était heureuse de pratiquer le ramadan, car cette religion à laquelle elle venait d'adhérer était exigeante et lui demandait de faire des choses pour Dieu et ainsi de se purifier pendant tout le mois du ramadan en ne mangeant ni ne buvant durant le jour, c'est-à-dire du lever du soleil au coucher du soleil, quitte à très bien manger le soir. Eh bien, elle aimait ça. Il y avait des exigences. Je ne dis pas qu'il faudrait revenir à toutes les exigences que nous avions dans mon enfance et qui étaient vraiment invraisemblables. Mais je crois qu'il y aurait lieu de rétablir le carême de façon saine, afin que dès notre enfance, nous soyons marqués par nos parents qui pratiqueraient et le jeûne et l'abstinence plus souvent. Et rappelez aux enfants que le vendredi, quand on ne mange pas de viande, c'est par tendresse à l'égard du Christ qui est mort un vendredi, qui est mort d'amour un vendredi, qui est mort pour nous montrer jusqu'à quel point Dieu nous aime. C'est pénible de penser que l'on a perdu tout ça. Ce sont des exercices spirituels, à mon sens. C'était des espèces de liturgies familiales, pénitentielles, qui s'ajoutait au pèlerinage que l'on fait quand on les fait à pied en signe de pénitence. Et j'ai souvent fait des pèlerinages comme ça dans ma vie, particulièrement en France, où on marche, c'est tellement beau les paysages, et de marcher comme ça longtemps pour se rendre à une basilique ou à une église romane, où on est seul, ou de se rendre même dans des lieux de pèlerinage plus importants, ou dans des églises très modernes, comme celle d'Assy, dans les Alpes, décorées par des vitraux de Rouault, des tapisseries de Lursa, des œuvres de Matisse, comme toutes sortes de choses intéressantes, et de marcher, de monter dans les montagnes, de se sentir épuisé, mais toujours dans l'espérance d'y arriver. La joie que l'on a quand on arrive nous fait comprendre que si on marche vers Dieu avec courage, on éprouve une joie profonde quand on arrive à la certitude profonde au fond de son cœur de cette présence de Dieu que l'on découvre en faisant une démarche intérieure. Jésus, dans Saint Matthieu, au chapitre 6, nous dit « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense, mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, et ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Il te le revaudra, c'est-à-dire qu'il te serrera dans ses bras. Il t'aimera comme il t'aime toujours. Mais là, tu découvriras vraiment son amour. Et c'est ça que Jésus finalement nous dit. Et pour passer à Saint-Pierre Damien, qui a été ce grand réformateur, qui a beaucoup jeûné dans sa vie, eh bien, je vous ai dit qu'il était né à Ravenne, dans le nord de l'Italie, en 1007. Il a été le dernier enfant, je vous l'ai dit, non désiré. D'une famille nombreuse et très pauvre, ses parents sont morts alors qu'il était encore en bas âge, puis fut recueilli par l'un de ses frères, puis était traité avec mépris et dureté. Et c'est peut-être de là, ça lui donnait des maux de tête, mais aussi quand il est entré en religion, il pratiquait trop de pénitence, ça lui donnait des maux de tête, et on dit qu'on peut l'invoquer contre les migraines. Bon. Mais son vrai nom, c'était Pierre, simplement. Il a ajouté Damien en mémoire de son frère qui s'est occupé de lui par la suite, un autre frère. Et c'est par reconnaissance qu'il a ajouté ce nom au sien. Il est devenu ainsi pour la postérité Pierre Damien. Dernier enfant dans sa famille, mal accueilli, il a été probablement très marqué dans son enfance puisque sa mère a refusé de l'allaiter. C'était vraiment un enfant non désiré dans tout le plein sens du terme. C'est une servante de la maison qui l'a pris en pitié, qui l'a ramené à de meilleurs sentiments la mère de Pierre. Et puis Pierre était encore en bas âge quand sont morts finalement ses parents. Heureusement que sa mère l'a allaité un peu. Donc son frère qui a veillé à son éducation a eu pitié vraiment de lui alors qu'il avait été maltraité par l'autre. Et puis il s'est appelé donc Pierre de Damien, finalement Pierre Damiani ou Pietro Damiani. Puis il a reçu une instruction solide finalement. Une instruction solide dès la jeunesse marque un être. Il l'a reçu à Ravenne, où il est né, à Faenza, tout près, et à Parme. Il était merveilleusement doué, il a fait des progrès rapides. À 25 ans, il était capable d'enseigner, imaginez, à Parme, et puis finalement à Ravenne, qui était une ville très importante dans le temps. Très, très importante. Alors, il y a eu des mauvais exemples. C'était un siècle de grande décadence, le 11e siècle. Si je vous racontais tout ce que j'en sais, et tout ce qu'on en sait, tout ce que les livres nous disent, vous seriez probablement terrifiés. Je n'oserais jamais tout vous raconter. Certaines personnes téléphoneraient à Radio-Ville-Marie pour dire qu'on ne devrait pas dire des choses comme ça. Oh non, mais enfin, Pierre Damien a affronté tout ça. Il y a eu de mauvais exemples, donc, des tentations violentes. Mais ça, ça l'a détourné du monde. Ça l'a déterminé à laisser ensevelir dans un cloître. C'était peut-être la seule solution à l'époque. Alors, il a rencontré ce qu'on appelle deux frères du désert de Fontavellano. Un désert, c'est-à-dire un monastère très sévère, très exigeant. Ça a fixé son choix, c'était tout près, c'était pas loin. Alors, avant de se présenter, il a voulu se mettre lui-même à l'épreuve pendant une quarantaine de jours, pour être sûr de pouvoir résister et demeurer avec ces hommes qui étaient très, très observants, comme moines, comme ermites. Alors, il n'a pas éveillé les soupçons de ses proches un bon matin. Il n'avertit personne. Il s'est rendu secrètement au monastère de Fontavellane. Et puis, il était très bien reçu, parce qu'il était instruit. On l'a confié à un religieux qui était chargé de l'initier aux pratiques des ermites. On fait toujours ça dans un monastère. Quand on entre et qu'on est postulant, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous pour nous enseigner tout ce qu'il faut faire, y compris comment tourner les pages de ces gros livres pour pouvoir chanter et prier avec les autres. Enseigner les règles, les constitutions, tous les détails. L'abbé de ce monastère a pas tardé à le revêtir assez rapidement de la coule, c'est-à-dire de ce vêtement à capuchon qu'on peut voir dans les monastères, si vous y êtes déjà allés. Les moines revêtent ça par-dessus leurs vêtements pour aller au cœur. Et ce vêtement à large manche, qui est porté par les bénédictins, les trappistes, les cisterciens, etc., à l'époque, ça voulait dire que la personne était admise déjà à la profession religieuse, et on faisait ça très rarement, remettre la coule si rapidement. Alors, Pierre Damien s'est étonné de ça. Il trouvait ça très précipité. Il était venu, lui, à Fontavellane, pour abdiquer ses idées propres, et pour obéir. Alors, il s'est soumis, sans plus tarder. Il ne comprenait pas tellement. Il avait alors 28 ans, quand même. Il est entré sur le tard. Ce monastère avait des constitutions qui étaient calquées sur celles des Camaldules, dit-on dans certains ouvrages. Dans d'autres, on dit qu'ils ne seraient devenus des Camaldules que beaucoup plus tard. Qu'est-ce que c'est que des Camaldules? Ce sont des moines qui existent toujours. Ça a été fondé à Camaldoli, en Italie, dans les Apennins, en 1012, par Saint Romuald, dont je vous ai déjà parlé. Je vous avais mentionné d'ailleurs que le supérieur général de cet ordre d'ermites très sévères dans le genre un peu des chartreux était un parent de M. Rostvorovski qui vit à Montréal, un parent très près. Et M. Rostvorovski fait des émissions religieuses sur le câble, rassemblement à son image. Je vous signale en passant qu'il a fait un excellent film sur Notre-Dame de Souffagnier dont il a été question une après-midi, il y a à peine 2 semaines peut-être, à l'émission de M. Gilbert Charon. Alors donc, les constitutions étaient sévères. Il y a eu de nombreux saints qui sont sortis de ces monastères, d'ailleurs. Pierre Damien fut l'un des premiers, non des moindres. Et dès son entrée dans ce désert, on peut appeler ça comme ça, il s'est livré tout entier aux exercices de la pénitence. C'était austère, on n'a pas idée au XXe siècle. Mais ça suffisait même pas à son zèle. Et bientôt, les autres religieux ont vu en lui un maître dans la pratique des vertus très reconnues de l'époque, c'est-à-dire la pratique de la pénitence, mais aussi l'humilité, l'obéissance, la pauvreté. Il se mortifiait de façon presque insensée, des veilles prolongées, puis s'imposait. On eut raison d'ailleurs de sa santé. Mais combien de gens, même aujourd'hui j'en connais, qui veillent très tard, de façon exagérée, à prier, à méditer. Ça se pratique encore parfois, mais pas autant que Pierre Damien l'a fait. Il a contracté donc de violents maux de tête, et puis ça a pris du temps pour s'en guérir. Il a compris qu'il fallait procéder avec un petit peu plus de discrétion. C'est souvent comme ça chez des gens qui sont appelés à la sainteté. Ils exagèrent au début. On dirait que l'Esprit-Saint leur calme les nerfs. Alors, durant sa convalescence, il a eu certains loisirs. Il était moins obligé de prier avec les autres si longtemps. Il s'est employé à l'étude assidue de la Bible. Nous sommes au 11e siècle, vers l'an 1040. Quand les gens nous disent que ces gens-là n'y connaissaient rien à l'Écriture sainte, ben voyons donc, la Bible, c'est pas née avec les protestants. Enlevez-vous ça de l'idée, j'espère. Alors, il a utilisé bientôt la connaissance qu'il a acquise en lisant et en étudiant l'Écriture sainte. Il l'a utilisé dans des conférences qu'il donnait à ses confrères. Et son renom de spécialiste, on peut dire, de la Bible ou d'exégète, s'est répandu dans les monastères qui étaient en relation avec le sien. Alors, on a voulu l'entendre, puis là, il est devenu économe de son monastère, prieur de son monastère, puis conférencier spirituel dans les autres monastères. Et son gouvernement a été une ère de prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Les novices sont devenus nombreux, car les novices, les jeunes gens sont prêts à suivre un père qui est vraiment un modèle. Quand des supérieurs ou des prieurs, des abbés sont des modèles, il y a habituellement de nombreuses vocations. Alors, pensez à Don Marmion, dont je vous ai parlé l'autre jour, l'abbé de Maretsu en Belgique, qui a attiré tellement de vocations que ce monastère, qui ne compte à peu près que 40 moines aujourd'hui, en avait 140. Il y a quoi? 60 ans? 50 ans? Alors, il a dû créer de nouveaux centres de prière, de nouveaux ermitages. Et puis, il a fondé le monastère de Notre-Dame de Citria. Et c'est là qu'il a envoyé ce moine qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Dominique Lencuirassé. Si vous lisez des choses sur le 11e siècle, vous verrez souvent son nom, Saint Dominique Lencuirassé, c'est-à-dire qu'il portait comme une cuirasse de métal contre sa peau. C'était un saint, comme on les voit au Moyen-Âge, des saints qui exagèrent de façon absolument invraisemblable. Mais il faut comprendre l'époque. Pierre Damien gardait la haute main sur toutes ses maisons, il les visitait, sans personne. Ou bien il envoyait de ses disciples immédiats, très près de lui, qu'il aimait beaucoup, et puis il leur écrivait des lettres qui nous sont restées. On connaît d'ailleurs par ses écrits le détail de la vie de ces ermites. On a beaucoup d'écrits de Saint-Pierre Damien, des écrits magnifiques. C'est un tonnerre, Pierre Damien, c'est une espèce de Savonarole, c'est un prédicateur, c'est un... Je ne voudrais pas scandaliser personne, mais c'est une espèce de Martin Luther à l'intérieur de l'Église. C'est vraiment quelqu'un qui n'accepte pas que l'Église soit décadente. Il faisait du travail manuel, évidemment, comme partout ailleurs à l'époque. C'est une des occupations quotidiennes des ermites. Et manifestement, Pierre Damien s'est occupé de guider et de faire avancer ses moines dans toutes les voies possibles de perfection, que ce soit dans le travail manuel, ou la prière, ou l'instruction. Il leur adressait dans ce but des exhortations magnifiques qui nous sont restées. Il avait une profonde dévotion à la Vierge Marie. Il a su s'inspirer avant tout de cette spiritualité mariale pour former ses ermites, en leur enseignant bien qu'ils étaient porteurs du Christ et qu'il devait se garder vierge. Il a rétabli dans ses monastères la coutume de réciter d'ailleurs le petit office de la Vierge à la suite du grand office. Ça se pratiquait encore chez les trappistes il y a quelques années, avant le concile. Il a composé lui-même d'ailleurs un office. Et son zèle ne se limitait pas simplement ses monastères. Il s'est mis à entretenir des relations avec d'autres religieux, qu'il consultait parce qu'il avait une réputation de plus en plus grandissante. Il donnait des conseils. Ce fut comme le prélude des relations qu'il va avoir plus tard avec les plus grands monastères de l'époque. Les plus grands monastères de son époque, c'est évidemment le Mont Cassin. Nous sommes ici sur l'avenue du Mont Cassin, d'ailleurs. C'était ce monastère fondé par Saint Benoît. C'était un monastère immense qui a été détruit durant la dernière guerre, et les Américains qui l'avaient détruit pour attaquer des Allemands qui s'y étaient réfugiés, ils ont tout reconstruit de A à Z dans les moindres détails. Ça a dû coûter des millions et des millions, parce que c'est un immense monastère rempli d'œuvres d'art et de choses sublimes. Et l'autre monastère, ben, c'était Cluny, dont je vous ai déjà parlé, cet immense monastère en Bourgogne. Alors souvent, il parlait à ses correspondants d'une façon assez sévère, c'est un moine désireux de voir la vie religieuse pratiquée comme elle doit l'être. Alors il reprochait à tous ces moines de son temps de posséder de grands biens, de manquer ainsi aux vœux de pauvreté, puis de trop fréquenter les gens du monde, les séculiers, et de se mêler, plus qu'il ne convient, à toutes ces affaires du monde. Mais lui-même sera mêlé aux affaires du monde. C'est ça qui est étrange. À l'occasion, pourtant, il savait consoler et encourager. Un moine, un jour, se plaignait à lui de n'avoir pas fait d'études avant d'entrer au monastère. Alors il lui a dit, « Souvent, la science est la source de tous les maux. Je suis à la fois d'accord, et cela m'irrite quand j'entends des choses comme ça. Elle est la source de tous les maux, la science. » Il ajoute, la connaissance, c'est-à-dire l'instruction, hein. « Le désir de l'acquérir, ajoute Pierre Damien à ce moine, et de la posséder, peut être dangereux. » Et c'est vrai. C'est vrai que l'orgueil peut s'emparer de quelqu'un qui est trop instruit. La vanité, la prétention. Et finalement, on peut arriver à jouer avec des blocs, hein. On édifie comme des espèces de constructions d'idées. On connaît les dogmes, on connaît les principes, on connaît les choses. Et tout ça devient sec. C'est l'orgueil qui fait ça. Mais quand je pense à Jean-Paul II, qui est très instruit, je ne vois rien de ça chez lui. Quand je pense au père Congar, dominicain, je ne vois rien de ça chez cet homme qui vient de mourir. Hans Urs von Balthasar, le plus grand théologien de ce siècle, que j'ai connu, mon Dieu, quel homme humble et bon, mais c'était l'homme, dit-on, le plus cultivé du XXe siècle. L'humilité l'habitait. Alors, la sollicitude de Pierre Damien s'étendait évidemment aussi au monial. Il avait des avis sages sur les moyens de supporter vaillamment les tribulations qu'elle pouvait avoir, parce que c'était pas facile d'être des femmes dans un monastère à une époque où le dévergondage était très répandu. Il leur enseignait comment atteindre la perfection. Parce qu'il faut dire que cette époque où a vécu Pierre Damien, c'est l'époque la plus triste de l'Église. Il en a tracé un tableau dans un livre qui s'appelle Liber Gomorianus, ou si vous voulez, le livre de Gomorre, Sodome et Gomorre. Je cite un passage. La discipline monastique est en langueur et s'écarte de son habituelle perfection, écrit Saint-Pierre Damien. Et la majorité des clercs vivent en, comme les gens du monde. Et les gens du monde s'attaquent et se pillent les uns les autres. C'était épouvantable. Je ne continue pas, c'est assez. Il y avait deux plaies surtout qui rongeaient l'Église à l'époque. Il y avait la simonie. C'est le trafic criminel des choses spirituelles. Les évêques demandaient, je sais pas moi, 8 écus pour être ordonné sous-diacre, 10 pour être diacre et 20 pour être prêtre. C'était épouvantable. Tout se vendait. On ordonnait des gens qui n'avaient aucune instruction et aucune connaissance. Et ça faisait un paquet de prêtres et d'évêques qui étaient très incontinents, qui avaient des maîtresses et même des amants, au vu et au su d'un peu tout le monde. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Quand on voit le père Brugberger raconter qu'il avait une maîtresse dominicaine pendant 25 ans, on est scandalisé, épouvanté, car aujourd'hui on sait que nos prêtres et nos évêques sont complètement différents des évêques et des prêtres de cette triste époque. Même le trône du pape de Saint-Pierre était occupé par un débauché, Benoît IX. Il occupait le siège 3 fois, parce qu'on le dégommait, comme on dit, on le remplaçait, mais il revenait à la mort du pape suivant, etc. C'était épouvantable. Mais il a renoncé au pontificat, ce pape abominable, le 17 juillet 1048, sur les conseils de Saint-Barthélemy. Il s'est repenti de sa vie de débauché. Il est entré comme moine dans le couvent de Saint-Basile à Grotta Ferrata, où il est mort, puis il a été enseveli. Il s'est réformé. Benoît IX, un des pires papes de l'histoire. En 1045, Grégoire VI a attaché à sa personne un homme magnifique, Hildebrand, un moine bénédictin. C'est le futur Saint Grégoire VII, qui était moine de l'abbaye de Cluny, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui a lutté contre les abus de l'Église, lui aussi, avec Pierre Damien. Et Pierre Damien était content de voir Hildebrand près du pape. Mais un schisme pouvait se produire, les meilleurs esprits ne virent à l'époque d'autre remède que dans un appel à l'empereur pour qu'il vienne solutionner les problèmes des élections de pape qui étaient extrêmement difficiles. Et nous verrons tout à l'heure comment Saint-Pierre Damien a réformé l'Église, a transformé le cœur des papes et des évêques. Alors donc, Pierre Damien qui est un réformateur de l'Église. Oui, il y a eu des tas de réformateurs à l'intérieur de l'Église. Les réformateurs ne sont pas tous en dehors hein, de l'Église catholique. Et alors donc, cet homme fantastique appelé Henri III, qu'on appelait Henri le Noir, roi de Germanie, empereur depuis 1039, il l'a appelé au secours de la papauté. Car il y avait trois papes, trois prétendants à Rome. Il y avait Sylvestre III, qui a été déposé et relégué dans un couvent. On a pensé qu'il n'était pas nécessaire de s'occuper de ce fameux Benoît IX qui était très décadent et qui était le pontife légitime, était tout jeune. Il s'était déposé lui-même. On dit qu'il préférait courir les femmes. Imaginez, c'est effrayant, vous savez. Je ne vous raconte pas tout. Je préfère garder silence sur certaines choses. En tous les cas, quant à Grégoire VI, le troisième, qui y était contraint devant des accusations de simonie, c'est-à-dire de vente de choses spirituelles, d'offrir sa démission. D'ailleurs, il est mort pas longtemps après sa démission. Alors, quand il arrive à Rome, le roi Henri, l'empereur, là, il assemble dans la basilique de Saint-Pierre de Rome, l'ancienne basilique, c'est pas celle qu'on voit aujourd'hui, et il rassemble le peuple, les évêques, les abbés, puis tout le clergé, puis la veille de Noël, il fait élire comme successeur de Grégoire VI, là, qui a démissionné et qui va mourir, un évêque de sa région, un Saxon, qui s'appelait Suidger. C'est un personnage très recommandable, il va régner même pas un an, probablement empoisonné, qui a pris le nom de Clément II. Alors Pierre Damien, Saint-Pierre Damien, assiste au couronnement de Henri, qui est couronné par ce pape. Ça s'était pas fait depuis le temps de Charlemagne. Puis il voit pour la première fois l'impératrice Agnès, la femme de cet Henri, dont il devait devenir plus tard, imaginez, le directeur spirituel. Il va avoir une grande influence sur elle. Ce roi Henri exige alors du pape, d'après son couronnement, puis du peuple, le serment de ne jamais procéder à l'élection d'un nouveau pape sans le consentement formel de l'empereur. C'est une ingérence épouvantable, hein? L'empereur qui veut dominer la papauté. C'était pour l'Église l'origine de toutes sortes de malheurs, ça. L'influence politique. En janvier 1047, Saint-Pierre Damien assiste à un synode au Latran, c'est à Rome, ça, où ont été promulgués quelques décrets contre les évêques simoniaques, c'est-à-dire ceux qui vendaient des choses spirituelles. Puis finalement, bien, Saint-Pierre Damien retourne dans son monastère. À diverses reprises, l'empereur prie notre Saint-Pierre Damien, dont il appréciait évidemment les vertus, de se rapprocher du pape Clément II pour l'aider dans ses conseils. Hein. Alors Pierre Damien, qui trouvait que ce pape était un peu mou, s'est décidé à lui écrire une lettre dont le ton est plutôt rude. Il l'invite à mettre en vigueur la discipline ecclésiastique. On ignore ce qu'a répondu le pape, en tout cas. Il n'a pas pu réaliser ses projets parce qu'il est mort, probablement, comme je vous dis, empoisonné, le 9 octobre 1047. Et puis, probablement empoisonné par ce jeune pape, le Benoît IX, qui n'a régné d'ailleurs à un moment donné, pour la troisième fois quand il a régné, il a régné seulement 21 jours. Il est expulsé par la foule tellement il était corrompu. Les gens ne voulaient rien savoir de cet affreux pape. Pris le nom de Léon IX, c'était un des premiers actes, était de créer cardinal le fameux moine Hildebrand dont je vous ai parlé, ce bénédictin merveilleux qui a été l'ancien secrétaire de Grégoire VI, qui va devenir lui-même Grégoire VII, ce grand pape. Il s'est montré l'adversaire déclaré de tous ces évêques simoniaques et de tous ces prêtres et ces évêques qui s'affichaient avec leur maîtresse. Et ce fut sans doute cette attitude absolument énergique, là, qui va engager Pierre Damien à rédiger le livre dont je vous ai parlé, le livre de Gomorre. Il va dédier d'ailleurs son livre à ce pape Léon IX qui a du courage. Alors on s'accorde à placer la composition de ce traité là, vers 1051. On peut le lire, hein, ça existe. La plupart des pages de ce livre de Saint-Pierre Damien sont d'un réalisme d'ailleurs scabreux. Je vous conseille pas de lire ça, vous serez probablement terrifié. Mais dites-vous que si l'Église est passée à travers de tels malheurs, et qu'elle existe toujours et qu'elle est toujours là, avec la sainteté qui l'habite chez tant de ses membres, c'est plein de saints dans l'Église aujourd'hui, c'est plein de saints à travers les siècles. On vous en parle à Radio Ville-Marie. Eh bien, cette Église est guidée par le Christ. Elle est habitée par l'Esprit-Saint. Elle est l'Église fondée par Dieu lui-même. Et Léon IX a loué cet auteur de ce livre, étrange et dur. Il l'a loué de l'appui qu'il lui apportait dans sa lutte déclarée contre les vices, mais surtout les vices charnels et les vices pécuniaires. Mais il a cru devoir user d'une certaine condescendance envers les crimes dont il était question. Il faut dire que Léon IX, lui, était entré à Rome les pieds nus. C'était une espèce de saint, plein de miséricorde. Pierre Damien, lui, s'était tiré des récriminations, des insultes de la part des clercs et des évêques. Les prêtres n'étaient pas contents. Il y a eu des plaintes contre lui qui ont été adressées au pape. Mais Léon IX s'est finalement laissé convaincre un peu, sous la poussée de son imagination, que Saint-Pierre Damien avait exagéré le mal. Alors, il est devenu un peu froid à l'égard de Pierre Damien. Il faut dire que Pierre Damien était très exigeant. Il n'y allait pas de main morte. Alors, il s'est soumis. Mais il s'est soumis avec... En se défendant quand même, il a écrit une lettre qui est très belle. Il a osé demander à Léon IX de ne pas le condamner avant d'avoir entendu sa défense. On ne sait pas quelle impression ça a donné au pape. J'ai lu cette lettre, c'est très très beau. Hein? Mais de fait, à partir de 1051... On ne voit plus notre ermite Saint-Pierre Damien mêlé aux événements du pontificat de Léon IX. Il ne prit aucune part directe aux controverses qui étaient passionnées entre les Grecs et les Latins qui devaient aboutir, comme on s'en souvient, en 1053 à ce schisme, à cette séparation sous le patriarche de Constantinople Michel Cérulaire, hein, qui a régné de 1043 à 1058, et le schisme s'est fait en 1053, et sous le court pontificat d'un Bavarois, un Allemand, Victor II, qui a régné tout de suite après le schisme, la situation officielle, on peut dire, de Pierre Damien est demeurée bien effacée. Il était retiré dans son monastère. Mais dans ses lettres à ce pape, en dépit de la, on dirait de l'âpreté de son style, il va pas de même, il manque de mesure même, mais on voit qu'ils s'estiment l'un l'autre. On y retrouve d'ailleurs une allusion à la mort de l'empereur Henri III, que le pape a béni sur son lit de mort. Mais vers la Pentecôte de 57, Saint-Pierre Damien, qui était en dehors de son monastère, a été atteint d'une grave maladie, mais il s'en est remis, il prétendait que c'était une sorte de miracle. Étienne IX, un Lorrain, là, né de la Lorraine, c'était un réformateur, ce pape. Il n'a régné que quelques mois, mais 7 mois environ, probablement empoisonné à nouveau, qui était le successeur donc de Victor II. Mais Étienne IX a voulu s'attacher Pierre Damien, qui était alors à Rome. Il l'a créé cardinal évêque de la ville d'Ostie, c'est pas tellement loin de Rome. Mais pour le décider à accepter cette dignité, parce que Saint-Pierre Damien n'en voulait pas, il a dû en venir à une menace d'excommunication. Le pape voulait excommunier Saint-Pierre Damien s'il ne voulait pas devenir cardinal et prêtre et évêque. Sous peine de désobéissance grave, il lui disait qu'il allait l'excommunier. Et puis, finalement, en le voyant, il a saisi sa main droite, il lui a passé l'anneau au doigt, il lui a donné la crosse qu'il tenait lui-même, et puis il lui a dit qu'il était fiancé à l'église d'Ostie. Étienne IX est mort prématurément, là, à Florence, en 1058, entre les bras de Saint-Hugues, le fameux Saint-Hugues, abbé de Cluny. C'était un homme remarquable. Il venait de décréter le pape quelques jours auparavant que sous peine d'excommunication ne devait pas élire son successeur avant le retour du moine bénédictin Hildebrand. Et ça ne s'est pas fait. Il y a eu des disputes dans des élections de pape. C'était épouvantable. Je vous en fais grâce. Ça en est presque scandalisant. Pierre Damien a eu des légations officielles à Milan, qui était une ville extrêmement décadente et qui s'imaginait être libre de toute autorité qui pouvait venir de Rome. Elle était ravagée par la simonie, l'immoralité du clergé. Il fallait que le pape Nicolas II, à cette époque Nicolas II, fasse quelque chose. Pierre Damien et Anselme de Luc, qui avaient été désignés comme légats, c'étaient des moines, furent reçus avec honneur, mais dans un synode dont Pierre Damien a pris la présidence, il y avait des clercs et des évêques et tout le monde était révolté. Ils ont prétexté que l'Église de Milan s'était toujours regardée comme indépendante de Rome, comme je vous l'ai dit. Et Pierre Damien s'est arrêté à un moment donné et puis il a prétendu qu'il était peut-être préférable de laisser le passé impuni. Il fallait surtout maintenant prévenir les fautes de l'avenir, en exigeant une promesse solennelle de corriger les abus. Il l'a obtenu. Et les prêtres, les évêques, ont promis de se transformer. Mais ça ne s'est guère fait. Notre pauvre Pierre Damien, finalement découragé devant tant de perversion de l'Église à l'époque, préférait retourner dans son monastère. Il vieillissait, il n'en pouvait plus. Et finalement, il a remis ses insignes pontificaux, ses ornements. Il a profité donc de ce moment pour se démettre de son évêché d'Ostie et de toutes les autres fonctions, mais le pape Nicolas II a refusé de faire droit à sa demande. Parce qu'il y avait de nouveaux troubles qui surgissaient dans l'Église, et le pape craignait qu'au moment de sa mort, il y ait encore plusieurs papes. Alors, le moine Hildebrand, conseiller du pape, a fait élire par les cardinaux et la partie saine de la noblesse, Anselme de Boggio, l'évêque de Luc, qui a pris le nom d'Alexandre II. Il va régner 11 ans. Mais les simoniacs, les gens qui vendaient des choses spirituelles, ont réussi à convaincre l'impératrice Agnès, dirigée par Saint-Pierre Damien, de convoquer à Bâle, en Suisse, ce qu'on appelle une diète, d'où est sorti un nouvel antipape qui a pris le nom d'Honorius II. Alors Pierre Damien s'est empressé d'écrire à cet antipape une lettre de reproche et de menace. Puis il a composé un long et remarquable mémoire pour l'Assemblée d'Augsbourg en 1062, à laquelle il ne pouvait se rendre. Il concluait son texte par un appel pressant à l'union, qu'il n'y ait qu'un seul pape. Alors cette union s'est réalisée en faveur d'Alexandre II. L'impératrice Agnès était accablée par la déception dont elle avait été la victime. Elle s'était laissée entraîner. Elle s'est renfermée dans une retraite. Elle est venue à Rome, au monastère de Sainte-Pétronille. Elle a suivi la direction de Saint-Pierre Damien, la direction spirituelle. Quand elle est morte en 1077, elle laissa la réputation d'une sainte, ce qu'elle devait en partie au conseil plein de sagesse de son directeur Saint-Pierre Damien. Au concile de Rome d'avril 1063, Saint-Hugues, qui était abbé de Cluny, était venu demander de l'aide contre un évêque, l'évêque de Mâcon, qui se conduisait très mal. Et une enquête a été jugée nécessaire. Et Pierre Damien, qui assistait à ce concile de Rome, s'est offert lui-même comme légat, se rendre jusqu'en France, jusqu'à Mâcon. Il était heureux de faire respecter les immunités monastiques en faveur de l'abbé Cluny, qu'il connaissait déjà. Heureux aussi de pouvoir visiter cette abbaye de Cluny, dont on célébrait partout les merveilles. C'était une abbaye la plus grande du monde, la plus renommée, la plus sainte, qui fournissait des papes et des cardinaux honorables. Alors le légat et l'abbé du monastère ont voyagé ensemble. Ils ont été reçus à Cluny par les moines au son des cloches et au chant des hymnes et des psaumes, et la première impression de Damien était agréable. Une agréable surprise qui était causée par la beauté des édifices qui étaient immenses. C'était plus grand, l'église, que celle de Saint-Pierre de Rome de l'époque. Il était émerveillé par la régularité des religieux. Il était habitué à un genre de vie cependant bien différent. Alors il s'est formalisé un peu de l'abondance et richesse de l'abbaye de Cluny, puis de la nourriture des moines qui lui semblait trop copieuse à son sens. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien, après avoir fait ces remarques-là, Saint-Hugues, l'abbé, lui a dit « Fort bien, mon père, monseigneur. » Et avec beaucoup de finesse, il lui a dit « Vous voulez augmenter notre couronne en augmentant nos jeûnes. Vous voulez qu'on devienne plus saint en augmentant nos jeûnes. Mais, ajoute-t-il, dit, portez vous-même notre fardeau pendant 8 jours. » Devenez moine comme nous pendant 8 jours, hein? Et vous jugerez alors ce qu'il convient d'y ajouter comme nourriture. Car enfin, vous ne pouvez dire ce qui manque de sel à un mets avant d'y avoir goûté. Et de même, vous ne pouvez apprécier le poids que portent nos frères bénédictins si vous n'y mettez pas au moins le petit doigt. Alors, expérience faite, le Damien, au bout de 8 jours, a trouvé que le poids de tous ses offices et de cette prière et de ce travail était au-dessus de ses forces. Alors il a cessé tout de suite de faire des remarques désobligeantes sur la vie des moines bénédictins de Cluny. Alors ensuite, il s'est rendu à Limoges pour réformer l'abbaye de Saint-Martial. Il est passé par Souvigny, où Saint-Hugues lui a demandé de lever le corps de Saint-Odilon, Saint-Abbé de Cluny, qui était mort en 1049, c'est-à-dire de le déterrer pour vérifier, ce qui équivalait à le canoniser. Et Damien requérait tout de même un nouveau miracle pour se prononcer. Il a pu constater le lendemain la guérison d'une femme paralytique qui avait touché les ossements de Saint-Odilon qui étaient exposés. D'autre part, avant de quitter la France, il a rendu visite à son ami Saint-Hugues, archevêque de Besançon, un autre Hugues, qui lui a fait un accueil empressé. Et devant cette légation, bien, des événements s'étaient succédés en Italie, qui menaçaient de prolonger le schisme. Et mal renseigné, bien, Damien a reçu un blâme du pape Alexandre II, puis de Hildebrand. Il a manifesté un peu d'humeur devant ça, parce qu'il se fâchait, Saint-Pierre Damien. Il a demandé la permission d'abdiquer ses dignités, puis de se retirer finalement dans son monastère une fois pour toutes. Mais le pape songeait à lui accorder la permission, mais c'est Hildebrand qui a persisté à ne pas y consentir, et ne comprenant pas qu'on puisse vouloir se reposer sur cette terre, Hildebrand a menacé Damien, Pierre Damien, d'une pénitence de 100 ans. Alors, Pierre Damien a accepté la pénitence et il s'est démis de ses fonctions, puis il est rentré dans son monastère à Fontavellani, puis il s'est déchargé le trop plein de son cœur dans une lettre au pape qu'il aimait, puis à Hildebrand, le futur Grégoire VII. Et pour prouver que c'était sagesse d'avoir abdiqué, il disait de lui-même en terminant « Mes yeux se voilent ». Mes larmes coulent toujours plus abondantes, les rides sillonnent mon visage et toutes mes dents tombent, ma mâchoire est une ruine, ma tête à peine grisonnante jusqu'ici est maintenant d'une blancheur de neige, mes forces s'en vont. Une seule chose, ô honte, me reste encore dans ma vieillesse, toute une lignée de vices. Les saints se considèrent toujours comme des grands pécheurs. Alors, dans son monastère, Damien a repris sa vie de mortification. Il s'est enfermé dans une cellule assez étroite, s'est mis au régime du jeûne quotidien, de la discipline, des ceintures, des chaînes de fer, comme on faisait à l'époque. Il occupait son temps à chanter des psaumes et à méditer et à lire. Et son biographe remarque au chapitre, à la réunion des moines dans sa salle du chapitre, après avoir adressé ses exhortations à ses frères, il s'accusait même publiquement de ses fautes, comme un simple religieux, puis prenait la discipline, il s'en frappait des deux mains. Et de tous côtés, on venait prendre les conseils. Le pape Alexandre II lui a demandé de lui écrire souvent pour lui donner des conseils. Et Saint-Pierre Damien en a profité pour dire en toute franchise sa manière de voir sur deux abus de la cour du pape à Rome. Car on y multipliait sans raison des anathèmes, des blâmes et des condamnations. Et on empêchait les prêtres et les laïcs de reprendre les excès de leurs évêques. Que les prélats, disait Pierre Damien, subissent la loi commune, leur humilité a tout à gagner. Et une fois de plus, bien, Damien a dû quitter sa solitude pour aller en Allemagne, traiter l'affaire du divorce d'Henri IV. Et tout ça est une longue chose. Après avoir rendu compte de sa mission à Alexandre II, bien, Damien est rentré encore dans son monastère et est demeuré en paix durant les années 1070-1071. Mais peu de temps après la mort de l'archevêque de Ravenne, le pape Alexandre II et Hildebrand, touché par la fausse situation où se trouvait le peuple de Ravenne, qui était un peuple important, ont décidé de lui envoyer Pierre Damien comme légat. Alors ils étaient flattés du choix de leur compatriote parce qu'il était né à Ravenne. Hein? Alors les Ravennais l'ont accueilli avec enthousiasme. Ils l'ont reçu humblement les reproches. Ils ont fait pénitence. Ils se sont convertis comme on doit le faire pendant le carême. Et comme ils reprenaient le chemin de Rome pour aller rendre compte de sa légation, le Saint-Pierre Damien a été arrêté à Faenza par la fièvre. Il est mort au monastère de Sainte-Marie-des-Anges, entouré des moines, auquel il a ordonné de réciter l'office du jour près de son lit. C'était le 22 février 1072. À la nouvelle de sa mort, les fidèles de Faenza sont mis en foule près de sa dépouille, et le corps a été déposé dans l'église à l'entrée du chœur. Puis depuis ce temps, ce moine célèbre, cardinal-évêque, a toujours été l'objet d'un culte à Faenza, dans le nord de l'Italie. Sur le tombeau a été placée une épitaphe qu'il avait lui-même composée. Écoutez bien ça, ça nous rappelle ce qu'on disait autrefois quand on nous donnait les cendres, le jour du mercredi des cendres. J'espère que vous allez recevoir les cendres aujourd'hui à l'église. « Tu es poussière et tu retourneras en poussière », nous disait-on autrefois. Eh bien lui, son épitaphe, c'était « Ce que tu es, je le fus », c'est-à-dire vivant. « Ce que je suis, tu le seras ». La poussière. De grâce, souviens-toi de moi. Regarde avec pitié ces cendres de pierre. Prie, pleure et dis, Seigneur, épargnez-le. Et dans la suite des siècles, il s'est fait plusieurs élévations où on a déterré son corps plusieurs fois. Et en 1354, puis ensuite en 1595, etc. Et la dernière a eu lieu en 1898. Le corps a été déposé dans une nouvelle chapelle qui lui était dédiée à Saint-Pierre Damien. En 1512, la ville de Faenza, où il est enterré, avait été délivrée du pillage par son intercession, dit-on. On lui accorde de nombreux miracles. Ça a mis Saint-Pierre Damien au nom des patrons de la ville. On ne lit nulle part qu'il ait été vraiment canonisé de façon officielle. Mais la voix populaire, dès le lendemain de sa mort, a proclamé sa sainteté. Les moines, notamment ceux du Mont Cassin et de Cluny, ont fêté son anniversaire, ont fait son office. Ils ont inséré son nom dans leur martyrologe. À Ravenne, sa patrie, cette très belle ville, fut la première ville qui a suivi l'exemple des religieux. Et les plus anciens calendriers de Faenza portent son nom au 23 février. Le 22 étant occupé par la fête de la chaire de Saint-Pierre. Enfin, ce culte immémorial a été sanctionné par l'acte du pape Léon XII, qui en 1821 a étendu à l'Église universelle l'office et la messe de Saint-Pierre Damien comme évêque, confesseur et docteur de l'Église. Il est fêté maintenant le 21 février. Saint-Pierre Damien a laissé des écrits qui comprennent des lettres au nombre de 158. Ça nous renseigne sur les affaires auxquelles il a été mêlé. Mais c'est comme ça qu'on peut mieux connaître cette époque triste de l'Église. Il y a des sermons sur divers sujets. Et ça dénote une connaissance étonnante de l'écriture sainte. C'est fantastique. Quand on lit ça, on dit, mon Dieu, mais je connaissais la Bible par cœur. Il écrit des vies de saints, en particulier de saint Odilon, l'abbé de Cluny, saint Romuald, fondateur des Camaldules, saint Rodolphe, évêque de Gubbio, saint Dominique l'Encuirassier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'autres. Il a laissé des opuscules au nombre de 70 hymnes de séquences, et c'était un poète assez apprécié de son temps, de très beaux poèmes. Vous savez que ça remplit deux volumes dans la patrologie latine de Migne, les volumes 144 et 145, ce qui est énorme. Il y a des biographies très anciennes. Son disciple, Jean de Lodi, a écrit sa vie. On peut se fier à cette vie. Je vous ai dit que c'était le mercredi des cendres. C'est un jour extrêmement important. Et je vous rappelle que dans le catéchisme de l'Église catholique, on dit, c'est tout récent, le temps et les jours de pénitence au cours de l'année liturgique, le temps du carême, chaque vendredi de l'année en mémoire de la mort du Seigneur, sont des moments forts de la pratique pénitentielle de l'Église. Et ces temps sont particulièrement appropriés pour les exercices spirituels, les liturgies pénitentielles, les pèlerinages en signe de pénitence, les privations volontaires comme le jeûne et l'aumône et le partage fraternel des œuvres caritatives et missionnaires. On est appelé à faire ça durant ce carême, à l'exemple de Saint-Pierre d'Amiens.